Une autre pratique donc qu'on trouve, donc si je donne l'exemple de Sylvie Barthes, c'est aussi parce que c'est assez paradigmatique de ce qu'on peut trouver plus largement dans l'écoféminisme. Chez Sylvie Barthes, donc, on a pratiqué énormément d'activités en cercle, donc des cercles de massage, des cercles de parole, des cercles de chant, des cercles de tissage, des cercles de danse, etc. Donc, avec voilà, un partage, une circulation de nos savoir-faire qui suppose un certain nombre d'outils. Donc, je lis la citation. Donc, dans ces lieux à l'écart du système, défrichés avec pusillanimité, installés légèrement de cabanes et de tentes, les femmes pourraient imaginer et bricoler une société sans guerre, sans victimes et sans conquérants, où la régulation volontaire fondée sur le respect du vivant l'emporterait sur l'exploitation, l'exclusion et l'élimination des différences. Dans ces lieux sans hiérarchie, avec ou sans yourte, on se décontaminerait des images, des codes, des normes et des stéréotypes. On décoloniserait ses pensées, son psychisme, ses croyances, ses rêves et ses fantasmes. Et donc évidemment, quant aux yourtes, qui est le lieu de Sylvie Barthes, aspire à être un de ces lieux, et c'est pour ça qu'elle l'ouvre régulièrement à des femmes. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette expérience de faire cercle, faire un nous voilà, de cercle, de sororité, ce n'est pas quelque chose qui serait forcément spontané ou facile ou naturel pour des femmes, mais que ça suppose toutes sortes d'outils et d'exercices dont Starhawk, par exemple, est une spécialiste, puisque dans Spiral Dance, Starhawk a inventé, ou en tout cas mis par écrit, des dizaines d'exercices destinés justement à voir comment on peut vraiment casser les logiques de domination par la parole, domination par différentes formes de sentiments de légitimité qu'on retrouve au sein de tout groupe, y compris non mixte. Donc là, un des enjeux chez Sylvie Barthes, c'est justement par quels outils on peut casser les hiérarchisations qui se recréent insidieusement au sein d'un groupe et se décontaminer sans qu'il y ait ni fusion dans un groupe. Ça, c'est aussi un des aspects importants de son idée de la sororité, c'est qu'il s'agit ni de séparation ni de fusion. Par exemple, dès le premier jour, même si quasiment toutes les activités qu'on a faites étaient collectivement, on a fabriqué ce qu'elle appelle le collier de la déesse, qui est un collier qu'on peut mettre quand on a envie qu'on nous foute la paix, avec la reconnaissance donc de la nécessité de créer un groupe très fort, surtout dans ce contexte où c'est indispensable pour survivre, et en même temps de reconnaître la nécessaire solitude. D'accord. Donc, dernier point là-dessus, la question de la non-mixité. Donc, comme je l'ai indiqué, hein, c'était un séjour en non-mixité. Et là, on peut s'interroger là-dessus. L'idée de la non-mixité dans l'incarnation de l'écoféminisme, c'est toujours d'être simplement un incubateur qui permet de se rapporter aux autres de façon différente après. Donc, de ces lieux, souvent des yourtes où murmure l'esprit de la nature et respire le cosmos, émergeraient des femmes libres, réfractaires à toute domination non explicitement consentie, capables d'accueillir leurs compagnons en toute maturité et indépendance d'esprit. Donc, la non-mixité, ce n'est pas une fermeture sur un groupe qui serait destiné à rester non mixte, mais dans l'incarnation écoféministe, c'est comment créer justement nous, les femmes, qui seraient délivrées des rivalités imposées par le patriarcat, et de se rapporter aux hommes différemment. Donc, je saute la suite. Alors, je vais peut-être passer vite sur certaines catégories intermédiaires pour aller peut-être pour changer de pays. Donc, dans les différentes strates que j'ai distinguées, il y a aussi ce que j'ai appelé les écoféministes en herbe, c'est-à-dire quelles pratiques on peut développer. Si on ne veut pas aller jusqu'à vivre dans une yourte sur un terrain isolé, comment incarner l'écoféminisme dans une vie plus ordinaire, plus urbaine, plus voilà, moins marginale. Et donc, au cours de mes recherches, j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre de femmes qui se disent écoféministes et qui cherchent du coup à tisser des nouveaux rapports avec leur milieu ou avec leur corps, à développer différentes pratiques qui peuvent permettre d'incarner l'écoféminisme en pratique, mais sans aller jusqu'à la marginalisation. Donc, par exemple, les pratiques de cueillette de Nathalie Moreau. La plupart des femmes que j'ai montrées, en fait, je les ai rencontrées au cours de pratiques qu'on a fait dans le bois de Vincennes, donc juste à côté de Paris. mais qui permettent de montrer comment on peut se rapporter tout à fait différemment à un environnement très quotidien. Donc, par exemple, Nathalie Mondeau, elle organise des balades botaniques dans le bois de Vincennes où on apprend, et elle, elle développe ça beaucoup plus, c'est une pratique quotidienne pour elle, à voir notre environnement, à se rapporter à notre environnement quotidien en apprenant à le connaître et en apprenant à communiquer d'une certaine façon dans son optique avec les plantes. Autre pratique, donc j'ai pas le temps de développer, la danse et plus largement différentes pratiques corporelles qui sont très très centrales dans l'écoféminisme, justement pour voir comment on peut concrètement passer d'un rapport à son propre corps comme rapport objectivé, aliéné, vers un rapport émancipé, ressenti. Donc, c'est des danses, par exemple, qui se pratiquent évidemment sans miroir, sans souci de la forme que le prend le corps, mais qui cherchent à permettre de se réapproprier la sensation interne de son corps et la conscience de l'intégration de son corps au sein de forces qui le soutiennent, qui le nourrissent, qui le font bouger. Donc ça, les mandalas, c'est des cercles de femmes qui reposent sur le partage, enfin une forme de solidarité financière entre des femmes qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui cherchent justement à lutter contre leur précarité en créant ces cercles de partage financier. Dernière catégorie, donc les écoféministes militantes. Donc ça, ce sont des images de Greenham Common, qui est une des luttes écoféministes les plus connues, qui a eu lieu dans les années 80 en Grande-Bretagne, où on voit l'utilisation de l'art et de la performance pour justement créer ce « nous » écoféministe. Et dans les combats écoféministes actuels, les collectifs écoféministes actuels, on retrouve cette dimension-là. Donc, par exemple, les bombes atomiques, un collectif écoféministe français qui lutte contre le nucléaire, en particulier à Lure, dans la Meuse. Le Front de mer, donc un syndicat de parents d'élèves de quartier populaire avec une fibre écoféministe qui lutte, par exemple, pour une alternative végétarienne dans les cantines scolaires ou pour la réappropriation des territoires pour les familles, pour les enfants dans différentes banlieues parisiennes, du nord-ouest parisien. Nord-est. Le Réseau national de femmes en défense de la terre-mère en Bolivie, donc là l'enjeu est plutôt contre l'extractivisme minier en l'occurrence. Le mouvement de Kendeng à Java en Indonésie, donc qui se réclame aussi écoféministe, qui lutte contre l'implantation d'une usine de ciment. Donc on voit qu'il y a aussi une forme de militantisme. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a la reprise de formes assez performées, théâtralisées, spectaculaires, donc là, avec les pieds dans le ciment, de militantisme. Donc, peut-être juste pour terminer, je montre juste quelques images d'une ONG écoféministe que j'ai pu suivre en Inde, qui s'appelle Jagori, qui œuvre auprès de femmes dans le nord de l'Inde. Et juste, je vais commenter très, très rapidement les images. On voit avec ce jeu qu'elles font faire aux femmes dans une maison des femmes dans un village, l'idée de souligner les interdépendances, donc créer du commun comme les cercles de conscientisation, les cercles de parole qu'évoquait Canif Fabrométrie. Donc voilà, matérialiser les interdépendances, ce qui crée du commun entre les femmes. Toutes sortes d'exercices aussi de jeux pour apprendre à connaître son corps, à dessiner ses organes qui sont indispensables là aussi pour une forme d'émancipation corporelle, de créer un nouveau rapport à soi moins patriarcal. Des interventions dans les écoles, des interventions aussi auprès de groupes locaux de femmes qui sont aussi fondées sur des formes de solidarité financière entre les femmes pour qu'elles puissent mettre de l'argent sur un compte en banque qui soit un compte en banque des femmes, donc qu'ils puissent pas, que l'argent qu'elles gagnent ne puisse pas être utilisé ou bu par leur mari. Et enfin, différentes pratiques d'agroécologie. Alors peut-être juste pour terminer, j'ai une toute petite vidéo qui dure 30 secondes qui fait écho à ce qui a été évoqué hier au sujet de la transmission intergénérationnelle. Donc là, c'est Jagori, l'association dont j'ai parlé, dans une école qui apprend aux jeunes filles les chants féministes de la génération précédente. Sur plein de trucs, mais c'est comme ça.
Peut-être, merci Jeanne.